16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve avec un grand plaisir en direct et jusqu'à 16h pour partager vos expériences de vie, vos histoires. À mes côtés, ma chère camarade Ombline, comment allez-vous ?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour,
bonjour
à tous.
Pendant cette heure, nous parlons de vous, de vos joies, de vos peines, car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Ils sont décédés avant même de naître ou quelques jours après être arrivés au monde. Ces enfants, ils ont été attendus, chéris. Pour les parents comme pour l'entourage, la douleur est immense, elle reste vive. Cela a un nom, le deuil périnatal. Et même s'il touche des milliers de personnes, il est encore tabou. Comme si l'on ne voulait pas voir ces bébés morts in utero ou à la naissance, comment faire ce deuil ? Dans cette émission, nous allons nous intéresser à la vie après, à la façon dont on avance, dont on se reconstruit, grâce à qui, grâce à quoi. Deuil périnatal, quelle vie après ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et je vous rappelle le numéro du standard Europe 1. Si vous souhaitez nous raconter la vôtre d'histoire, d'ici 16h39, 21,50 centimes la minute, vous pouvez nous écrire Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Gaëlle sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Gaëlle ?
Alors, je viens d'avoir 47 ans et j'habite à Montreuil, en région parisienne.
D'accord. Alors Gaëlle, vous êtes le père de trois enfants. L'un d'eux, Ruben, est né fin juillet 2017. La grossesse s'est bien passée, mais quelques heures après l'accouchement, il a commencé à faire des apnées respiratoires. Que s'est-il passé exactement ?
Alors en fait, comme vous l'avez dit, effectivement, la grossesse et l'accouchement sont parfaitement passés. Donc Ruben était notre deuxième enfant. Oui. Ma femme a souhaité accoucher au Diaconès à Paris, une maternité à Paris, comme pour Gabriel, qui est notre premier enfant. Mm-hmm. Tout se passe bien. On redescend dans la chambre de ma femme pour reprendre quelques forces après l'accouchement, puisqu'il est quelque chose comme 3 ou 4 heures du matin. En prenant la décision du coup de laisser Ruben à la pouponnière de la maternité pour se reposer un petit peu. Moi je rentre à la maison puisque mon aîné Gabriel avait dormi à la maison avec ma belle-mère, serein et puis comblé quoi, parce que je viens d'avoir un deuxième enfant, donc je suis ravi. Et ma femme Marie-Carline m'appelle quelques heures après même pour me dire qu'il y a une grosse urgence, qu'il faut que je vienne le plus rapidement possible à la maternité puisque Ruben fait ce qu'on appelle des apnées respiratoires, à savoir qu'il s'arrête, il bloque sa respiration. La maternité des Diaconès n'étant pas pourvue d'un service de réanimation néonatale, le SAMU est sur place. Et me dit qu'il faut transférer le plus rapidement possible Ruben dans un service d'urgence néonatale. Voilà.
Alors, en septembre 2017, l'état de Ruben s'est détérioré. On a commencé à vous préparer au pire, puisque Ruben est parti 53 jours après sa naissance. On a du mal à imaginer le chagrin qui peut être présent instantanément, les jours douloureux qui suivent une telle épreuve. Est-ce que ça a été un deuil particulier pour vous de perdre cet enfant que vous n'avez connu que 53 jours ?
Alors quoi qu'il arrive, je pense que le deuil d'un enfant, c'est forcément un deuil particulier parce que c'est tout simplement un deuil qui est contre nature. Enfin, de toute façon, je pense que la mort est dans notre société occidentale quelque chose qui est quand même encore tabou, même si c'est la fin du cycle de la vie. Mais on n'aime pas parler de la mort, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on aime encore moins parler de la mort d'un enfant parce que c'est vraiment contre nature. En fait, je pense qu'aucun parent ne devrait avoir à subir le décès de son enfant. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier et quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui avec le temps on a ma femme et moi pensé nos plaies, mais on peut pas, je pense que aucun parent n'accepte véritablement le décès de son enfant, c'est pas possible.
Comment l'a vécu votre premier garçon, parce que il est vrai que là il y avait un aîné et que c'est compliqué aussi pour un grand frère là. Il a attendu lui aussi cet enfant et puis cet enfant, ce petit frère, il s'en va au bout de 53 jours. Comment il l'a vécu lui ?
Alors, bah, il était assez jeune, il avait 2 ans et demi à l'époque
D'accord.
de la naissance de Ruben. Donc, il était à l'époque à la crèche et on a très rapidement, on s'est rendu compte à la fois avec l'aide de la psychologue de la crèche dans laquelle il était et également de l'aide des différents psychologues des hôpitaux dans lesquels Ruben a été soigné. On s'est rendu compte très rapidement qu'il fallait rien lui cacher, qu'il fallait vraiment tout lui dire de ce qui était en train de se passer parce que si on lui avait pas dit, en fait, il aurait facilement pu croire que tout ce qui se passait était de sa faute.
Oui. Donc, et imaginez, tout est n'importe quoi, même à 2 ans et demi, en fait.
C'est ça. Donc, en fait, c'est juste le choix des mots qui était un peu délicat.
Oui.
Mais en fait, les psychologues nous ont expliqué qu'il fallait finalement lui dire la vérité avec des mots assez simples et pas essayer d'utiliser des métaphores. Parce que les représentations que les adultes font de la mort, c'est quelque chose d'assez qui peut être assez froid et assez glauque. Et que, en fait, les enfants n'ont pas du tout cette représentation-là. Donc, pour être très concret, on lui a dit que son petit frère était très gravement malade. Et puis, quand Ruben est décédé, on lui a dit que son petit frère était tellement malade qu'il n'avait pas pu être sauvé et qu'il était décédé et qu'il ne reviendrait plus.
Voilà. Les mois qui ont suivi, vous dites que vous avez assuré votre rôle de père et que vous avez fait en sorte que votre couple, n'explose pas. Expliquez-moi ce que vous viviez tous les deux et justement le fait que vous ayez ressenti qu'il fallait vraiment que vous ayez une présence pour que votre couple reste debout.
Oui, très rapidement en fait, c'est-à-dire 3 jours après la naissance de Ruben, on a eu une première réunion avec les médecins et ils nous ont quasiment tout de suite parlé effectivement de graves pathologies neurologiques avec tout ce que ça représente. Et donc ils ont 3 jours après la naissance de Ruben déjà commencé à utiliser le terme des soins palliatifs. Donc ça nous a mis
préparé.
Exactement, ça nous a mis très très franchement effectivement dans cette idée-là que tout pouvait se passer. On a pendant les 53 jours de vie de Ruben, on n'a jamais lâché, on n'a jamais perdu espoir, mais à la fois on était très rapidement sensibilisés sur le fait qu'il y avait une des options, c'était effectivement malheureusement que Ruben décède. Donc à la fois effectivement on y était préparé, mais quand c'est arrivé. C'est quelque chose de très violent et j'ai envie de dire que les premières heures ou les premiers jours après le décès de Ruben, finalement on a cette impression, ma femme et moi, d'avoir été dans une espèce de bulle déconnectée un petit peu hors du temps. Et à la fois il fallait très concrètement, il fallait qu'on s'occupe de l'enterrement de notre petit bonhomme. Donc, ce sont des, en fait, c'est des choses très très terre à terre. Finalement, c'est aller quasiment de suite, enfin le lendemain d'ailleurs du décès de Ruben, aller aux pompes funèbres, faire tout un choix de choses pour l'enterrement, prendre rendez-vous avec le prêtre. Enfin, c'est à la fois, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose, enfin de voilà, qu'encore une fois, qu'aucun parent ne devrait avoir à faire. Mais sur le moment, je pense que ça nous a évité de cogiter et c'était pas plus mal parce que sinon, j'ai la sensation qu'on aurait pu s'effondrer effectivement tous les deux juste après le décès de Ruben.
Gaëlle, vous restez en ligne avec nous. On va aussi voir que dans les jours qui ont suivi, les mois, les semaines qui ont suivi, vous avez aussi fait en sorte de vous occuper l'un de l'autre aussi pour que votre couple reste solide et uni. On continue à parler de votre histoire dans quelques instants.
Europe 1. Comment surmonter le traumatisme de la perte d'un enfant avant sa naissance ou juste après? On vous écoute au 39-21. Vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. La perte du bébé qu'on attendait juste après sa naissance, comment arriver à faire son deuil? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour nous raconter votre histoire.
Et nous sommes toujours en ligne avec Gaëlle qui nous expliquait avoir perdu son fils Ruben 53 jours après sa naissance. Nous étions en train de parler de votre couple, de ces semaines et de ces mois qui ont suivi le départ de Ruben. Gaëlle, qu'est-ce qui vous a fait tenir? Est-ce que vous arriviez à en parler avec votre femme, à mettre des mots sur ce que vous viviez? Est-ce que vous avez été aussi aidée psychologiquement durant cette épreuve?
Oui, alors je pense que la première des choses, c'est que très rapidement, après la naissance de Ruben du coup l'avalanche qui nous est tombée dessus, on s'est rendu compte que notre vie était en train de changer et que potentiellement notre couple était vraiment à rude épreuve et pouvait tout à fait exploser à
ouais.
tout moment.
Mmh.
Donc on a très rapidement pris le parti de beaucoup échanger tous les deux. C'est ce qui a, dans un premier temps, je pense, fait vraiment notre force. On est resté vraiment soudés dans cette épreuve-là.
Mmh.
Et après le décès de Ruben, on a continué à se dire qu'il fallait vraiment qu'on se cache rien l'un à l'autre et qu'on allait passer chacun de nous par des émotions qui seraient sûrement très très différentes. Que ça ne voulait pas dire que l'un et l'autre, on ne ressentait pas d'émotions et qu'on ne faisait pas front ensemble, mais qu'on aurait peut-être effectivement des périodes très douloureuses chacun séparément et que dans ces périodes-là, il faudrait faire en sorte, si possible, que la personne la moins mal en point, entre guillemets, puisse essayer de soutenir l'autre.
Mmh. Alors, votre femme est tombée 8 mois après. Enceinte, 8 mois après le décès de Ruben. Je suppose que vous vouliez très vite avoir un autre enfant. Est-ce que ça a été un hasard ou est-ce que c'était une volonté de votre part? Parce qu'on parle souvent, dans le cadre du deuil périnatal, d'enfants de remplacement, ce qui est en fait sans doute dans la bouche de gens qui n'ont pas traversé ce type d'expérience et qui ne peuvent pas se mettre à la place des parents qui ont traversé ce genre d'épreuve. Cette nouvelle naissance, cette arrivée, en fait, comment est-ce que vous l'avez vécue? Et comment
Alors,
vous l'avez décidée, surtout?
Oui, alors très rapidement après le décès de Ruben, on s'est dit effectivement avec ma femme que on avait chacun ce désir d'avoir un autre enfant, mais on s'est également dit effectivement qu'on ne voulait pas avoir un enfant pour nous aider à penser nos plaies, parce que
oui.
Dans ce schéma-là, effectivement, ça serait un fardeau un petit peu trop fort pour un enfant à naître, en fait.
Mm-hmm.
Donc, on s'est dit qu'on allait déjà s'attacher à aller mieux, chacun de nous, et en tant que couple. Et pour ça, on a mis un certain nombre de choses en place, puisque au-delà de d'échanger vraiment quotidiennement ensemble, ce qui pour moi est le début effectivement de la reconstruction, ma femme a été suivie par un psychologue. On a fait également appel à un groupe de parole qui s'appelle AGAPA, qui est une association qui permet à des parents endeuillés d'échanger ensemble. Et je
oui.
pense que c'est aussi une des clés de notre reconstruction, parce que on s'est quand même très vite rendu compte que on était différents, on était rentrés sans le vouloir dans un espèce de cercle, et que même nos proches, même nos parents, même nos frères, enfin les gens qui nous étaient très proches et qui nous avaient beaucoup soutenus, en fait n'avaient pas conscience de ce qu'on avait vécu. Donc on avait ce besoin-là de discuter avec des gens qui avaient vécu les drames qu'on a vécu nous de notre côté.
Mmh.
Donc on a mis tout ça en place, et puis effectivement quelques mois après, quand on a eu cette sensation-là d'aller un petit peu mieux, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que on avait de nouveau, entre guillemets, les épaules pour accueillir un troisième enfant.
Mmh. Alors, c'est seulement à la naissance de votre fille que vous êtes effondré, hein, quelques mois après le décès de Ruben. Donc, comment l'expliquez-vous qu'au moment de l'arrivée de votre fille, tout à coup, il y ait une réaction à laquelle vous ne vous attendiez pas spécialement?
Je pense que c'est tout simplement à la fois le fait d'avoir essayé d'être là auprès de mon fils et auprès de ma femme pendant les semaines et les mois qui ont suivi le décès de Ruben.
Mmh.
Et à une période où on a eu l'impression finalement que la pente était un petit peu remontée.
Oui, oui.
En fait, psychologiquement, je me suis autorisé à lâcher, tout simplement.
À lâcher prise.
Et,
ouais.
et du coup, je pense qu'effectivement, mon corps, à ce moment-là, a écouté la tête et a lâché également.
Mmh. Quelle place a Ruben aujourd'hui dans votre vie? Comment est-ce que vous y pensez, vous? À quelle fréquence? Lors de quelles occasions? Et est-ce que vous parlez de Ruben?
Ah bah Ruben, en fait, Ruben, c'est notre deuxième enfant, c'est notre notre deuxième fils. Oui. Il fait partie de la famille. On en parle. Il y a aucun tabou au sujet de Ruben à la fois à la maison. Il y a quelques photos de Ruben chez nous. Il y en a également quelques-unes dans la chambre de Gabriel. Oui. On n'a pas envie de faire une sorte de fixation sur Ruben. Mais à côté de ça, en fait, Ruben, c'est un de nos trois enfants.
Il fait partie de votre histoire.
Il fait totalement partie de notre histoire et notre vie, elle a vraiment changé avec Ruben. Je pense pouvoir dire qu'on est notre vie a vraiment changé quoi. Donc il n'y a pas du tout de tabou et c'est en ce sens-là justement que ma femme qui a eu le besoin d'écrire l'histoire de Ruben peu de temps après son décès a souhaité éditer cette histoire-là et que on a la chance effectivement que ce témoignage ait été édité. Il est sorti il y a quelques jours parce que on a ce désir de parler de Ruben. On a le désir que les gens sachent que on a eu un enfant qui s'appelait Ruben, qui a vécu 53 jours, qui était merveilleux et qui a totalement changé notre vie. Quoi.
Et comment s'appelle cet ouvrage et où peut-on le trouver ?
Alors, le livre s'appelle 53 jours d'un amour éternel. Oui. Il a été édité aux éditions Quetken. Oui. Et on peut se le procurer sur la plupart des grandes plateformes, Amazon, la Fnac, plus la plupart des librairies en ligne.
D'accord. Merci beaucoup, Gaëlle, pour votre appel et pour votre précieux témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Marie-Josée Soubieux. Elle est psychanalyste, pédopsychiatre et a écrit l'ouvrage Le berceau vide, disponible aux éditions RS.
Et le témoignage de Charlène, 28 ans, de Saône-et-Loire au 39-21. Le 11 novembre 2018, j'ai perdu ma petite fille à 3 semaines du terme. Elle a fait un arrêt cardiaque inexpliqué, in utero. Au début, c'est la survie. Ensuite, on réapprend à vivre, même si nous ne serons plus jamais les mêmes. Les proches doivent être présents et ils doivent faire comme si l'enfant était là. J'attends de nouveau un bébé. C'est une grande joie accompagnée d'une angoisse. On veut faire confiance à ce bébé et à la vie.
Europe 1.
Quelle vie après avoir perdu un enfant, avant ou juste après sa naissance? On continue de parler du deuil périnatal sur Europe 1 au 39-21. Après le drame, quand la vie reprend doucement, vous avez vécu la perte d'un bébé avant sa naissance ou juste après? Vous en parlez cet après-midi au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Marie-Josée Soubieux, psychanalyste, pédopsychiatre et auteur de l'ouvrage Le berceau vide. Bonjour madame, bonjour docteur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Monsieur Delacroix et merci de m'avoir invité à participer à cette émission
qui traite
d'un thème encore vraiment trop tabou. Mmh.
Nous allons justement avoir vos éclairages sur justement le fait que ce thème reste tabou et on va parler d'abord de ces étapes du deuil dans le cas de ce deuil périnatal. Sont-elles les mêmes que dans un deuil classique ?
Non, elles sont très différentes et en tout cas peut-être qu'il faudrait aussi repenser le deuil classique. Enfin, je pense que le deuil périnatal est un deuil qui ne finit jamais.
Oui.
C'est un deuil qui touche en fait l'être dans son entièreté, c'est-à-dire que quand on perd un proche, on a des souvenirs avec cette personne et on peut se représenter la personne et soi avec cette personne, alors que quand on a perdu un bébé qui n'a pas vécu, on a peut-être le souvenir de tous les rêves qu'on avait faits. Alors évidemment, il y a quand même des images échographiques, il y a toutes les sensations corporelles que la femme a pu ressentir et que le père aussi a pu sentir parfois. Et puis après, il y a aussi malheureusement l'entourage qui n'a pas connu cet enfant et qui va avoir tendance à nier son existence. Alors que habituellement on a tendance à entourer les endeuillés, là on a tendance à les éviter, même si peut-être un petit peu moins qu'avant, même si dans les premiers temps il y a quand même en effet des soutiens de la famille ou des amis proches, mais avec le temps qui passe, très souvent quand même ces bébés sont dans l'oubli.
Oui.
Donc ça va être très très... Alors, heureusement que les lois ont changé grâce aussi aux parents, aux associations de parents et aussi aux professionnels, et ce qui fait que maintenant le bébé qui est mort avant la naissance peut être déclaré, quel que soit le terme de sa mort, et c'est très important.
Il y a encore quelques années d'ailleurs, on considérait que ce n'était pas utile de voir le bébé décédé, et cela a changé. Qu'est-ce que cela apporte aux parents aujourd'hui?
Alors, ça c'est un point excessivement important parce que Alors, autrefois, on avait tendance, quand je dis autrefois, c'est il n'y a pas si longtemps, dans certains endroits d'ailleurs. Hein. Mais enfin bon, on va dire qu'il y a, il y a une vingtaine d'années, enfin, on avait tendance, en effet, à éviter de montrer le bébé aux parents. Parfois, il y a des parents qui m'ont raconté, des mères qui m'ont raconté, par exemple, il y a une quarantaine d'années, qu'elles n'ont jamais su ce qu'était devenu leur bébé.
Oui,
elles ont accouché, ou même des fois, elles étaient anesthésiées. Et donc, il y a un blanc, il y a quelque chose de terrible qu'elles ne peuvent jamais combler. C'est vrai qu'après, on s'est posé la question de montrer le bébé avec l'idée que peut-être pour faire le deuil, une expression que j'aime pas trop, mais on va dire les choses quand même comme ça simplement, qu'il fallait voir ce bébé. Mmh. En fait, il s'est avéré qu'avec des études un petit peu plus longues, et puis moi surtout avec mon expérience clinique, que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que je pense que au moment où on apprend la mort de son bébé, alors parfois effectivement il y a une préparation, et on n'est jamais prêt hein, évidemment, mais je pense au beau témoignage de Gaël hein, qui a tout dit d'ailleurs. Hein, mm-hmm. Parfois, même si on sait que le bébé va mourir, on peut peut-être davantage un petit peu organiser des choses, mais parfois on est très surpris. Enfin, c'est peut-être le cas de Charlène là. Un nom qui a été donné là d'un témoignage d'une maman qui a perdu son bébé peu avant le terme.
Oui.
Donc ça peut être très brutal, très très violent. Et à ce moment-là, le choc est tellement grand que parfois, pour supporter cette mort impensable, eh bien les parents ne peuvent plus imaginer que c'est un bébé.
Mmh.
Donc leur montrer le bébé à ce moment-là, ça peut être violent pour eux.
Ça permet en tout cas de réaliser vraiment l'événement de manière concrète. Beaucoup de mères se sentent coupables, culpabilisent et semblent souffrir d'une manière beaucoup plus importante que le père, même si je pense que c'est lié à la nature aussi des femmes et des hommes. Une femme a porté ce bébé, donc il est normal qu'elle ait un rapport différent et particulier. Comment sortir de cet état pour ces mamans ?
Alors, pour ces mamans, je crois que c'est très important de pouvoir en parler. Alors, ce que disait Gaël au sujet du couple est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est très important que le père et la mère puissent se parler, hein, puissent parler de ce qui s'est passé,
oui.
Se parler ou se prendre par la main ou se prendre l'épaule, savoir que l'un pense à l'autre, à leur bébé. Très souvent, il y a des malentendus. Très souvent, les femmes pensent que parce que l'homme a repris le travail, peut-être le sport, etc., qu'il n'y pense plus du tout au bébé. C'est pas vrai. Hommes et femmes souffrent énormément. Hein. Sauf qu'ils l'expriment d'une façon différente. C'est ce que disait très, très justement Gaël, hein, qui s'est donc écroulé, lui, à la naissance donc, de leur petit
de Ruben,
fille, hein, je crois. Oui. Hein, c'est ça.
Mm-hmm.
Et effectivement, il a porté, hein, il a porté sa femme, il a porté son fils, et puis aussi, évidemment, organisé et pensé dans sa tête à ce petit Ruben. Donc c'est vrai qu'il a, à ce moment-là, enfin, ça y est, ils avaient pu arriver à un projet, à un autre projet d'enfant, qui est aussi difficile. Hein. Les grossesses qui suivent, elles ne sont pas faciles du tout, du tout, du tout. Et donc là, il a pu lâcher. Donc, hommes et femmes souffrent vraiment. Mais je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir être soutenu. Donc, c'est vrai que c'est important de rencontrer des psychologues. C'est important que le couple aussi puisse rencontrer des psychologues ou aller dans des groupes. Moi-même, j'ai organisé pendant une quinzaine d'années un groupe. C'était plus pour les mères, parce que c'est elles qui avaient souhaité être entre elles aussi. Donc, un groupe qui avait lieu toutes les semaines, hein, un groupe de mères, et qui a été absolument très, très important, vital. Enfin, tous les témoignages que j'ai eus me l'ont montré. Mais aussi des associations comme Agapa, Petite Émilie, qui reçoivent les parents, hein, les couples. Hein. Et je crois que c'est vraiment très important de lever tous les malentendus.
On voit en tout cas qu'il est important à ce moment-là de pouvoir d'abord partager intimement, de se soutenir déjà dans ce couple et de parler. On l'a très bien vu à travers le témoignage de Gaël, partager avec sa femme et puis être accompagné, comme Gaël l'a dit, à travers d'ailleurs ce groupe de parole qui est Agapa. Marie-Josée Soubieux, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, que vous êtes psychanalyste et auteur de l'ouvrage Le berceau vide aux éditions RS. Vous restez avec nous en ligne, on va continuer à évoquer ce deuil périnatal. Et dans quelques instants, nous aurons Aude. Elle a dû mettre un terme à sa grossesse au bout de 29 semaines en 2013. Et depuis, elle a eu besoin d'écrire sur ce qu'elle a vécu.
Et le témoignage de Virginie sur Facebook, le 11 avril, cela fera 7 ans que le ciel nous est tombé sur la tête. 9 jours plus tard, nous avons vécu le moment le plus irréaliste, le plus émouvant et le plus cruel que des parents puissent vivre. Un accouchement dans le silence, un petit garçon qui s'appelait Mathieu. Et puis Elisabeth au 39-21. Je coordonne la journée Une fleur, une vie qui sert à soutenir les parents qui souffrent du deuil périnatal. Ce sera une nouvelle édition bientôt. J'ai moi-même perdu un enfant il y a 21 ans.
Europe 1.
Comment se reconstruire après la perte d'un bébé? Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous avez perdu un bébé avant sa naissance, pendant l'accouchement ou quelques jours après, vous avez trouvé la force d'avancer. Vous discutez avec Olivier Delacroix au 39-21 et on vous lit bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et sur Facebook. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous écrire sur la page du groupe.
Et nous sommes toujours avec Marie-Josée Soubieux, pardonnez-moi, docteur, psychanalyste, pédopsychiatre et auteur de l'ouvrage Le berceau vide, disponible aux éditions RS. Nous évoquions ensemble le témoignage de Gaëlle et dans ce témoignage, le cas de cet enfant de remplacement qui fait suite au deuil. Enfin, en tout cas, qui intervient lors du deuil périnatal, en fait. Est-ce dangereux de refaire trop vite un enfant? Et est-ce un classique que vous constatez, vous, dans le cadre de votre métier?
Écoutez, on avait beaucoup parlé d'enfants de remplacement autrefois, quand, surtout à propos d'enfants qui mouraient de leucémie, par exemple, et pour lesquels les parents faisaient très très vite un enfant, en effet, peut-être oui. En tout cas surmonter cette douleur et remplacer l'autre. Mais en fait, moi, je vois très peu, je trouve que ce terme d'enfant de remplacement est
un peu rude.
Oui, très rude et mal approprié. Oui. Et je trouve que ce que dit Gaëlle est très, très juste, en fait. C'est que cet enfant, il aura toujours sa place dans la famille. Il fait partie de l'histoire de la famille. Ça sera soit le grand frère, soit ça sera le deuxième ou le troisième. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de penser que c'est un enfant qui va avoir laissé des traces et qui va laisser aussi la possibilité à l'autre enfant de prendre sa place. Et en particulier, pendant la grossesse qui suit, par exemple à la grossesse de la petite Gabrielle, je crois, c'est vrai que souvent les parents, les mères, elles parlent souvent de l'enfant qui est mort plutôt que de l'enfant qui va venir dans les premiers mois.
Et c'est une manière d'évoquer cela de la manière la plus juste, sans parler en plus de cet enfant de remplacement, parce que lorsqu'on y réfléchit bien, ça ne veut rien dire. Un enfant ne peut pas en remplacer un autre. Ce que l'on constate chez tous ces parents qui ont vécu ce type d'épreuve. Nous sommes en ligne avec Aude. Bonjour Aude, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Aude?
Alors, j'ai 43 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, ce bébé qui ne naîtra pas, c'est le sous-titre de votre ouvrage, 29 semaines et des poussières d'étoiles. En 2013, c'est vous avez dû mettre un terme à votre grossesse car votre bébé était atteint de malformations fœtales. Dans cet ouvrage, vous écrivez « Comment se consoler d'avoir perdu un bébé que l'on a à peine connu ?» Qu'est-ce qui vous questionnait lors de ce que vous avez vécu au terme de ces 29 semaines?
Écoutez, je vous remercie d'abord de me donner la parole. Je suis assez émue de ce que j'ai entendu, des autres témoignages. En fait, quand on a si peu connu un enfant, le mien, il est né à 29 semaines après une IMG. On a l'impression que ça compte pas, que c'est pas un vrai bébé en fait, et que c'est pas une vraie personne en fait. C'est ça qui est terrible. Et moi, mon enfant, je l'ai tenu dans les bras et j'ai eu l'impression qu'il a existé pas très longtemps. Et ce qui me questionnait, c'était de me dire, est-ce qu'on peut être triste quand on a connu quelqu'un qu'on a si peu connu? Et en fait, si, on est quand même triste. On l'a connu puisqu'on l'a tenu dans ses bras, on l'a vu, et il n'est pas là. Et c'est cette douleur qui est très difficile à assumer.
Et ce deuil.
C'est ça qui me questionnait.
Ce deuil dont vous parlez, est-ce que vous en parlez comme s'il vous avait fait culpabiliser ou c'est un autre sentiment?
Alors non, le deuil ne m'a pas fait culpabiliser, non, en fait. Le deuil m'a plutôt déprimée, en fait. Que culpabiliser.
Oui.
Ce qui m'a vraiment culpabilisé, c'est le moment où j'ai dû demander l'IMG. J'ai pris cette décision avec mon mari. Et le plus terrible, c'est que je portais un enfant qui était vivant en moi, qui bougeait.
Bien sûr.
Et on doit attendre une semaine. Ça, c'est un protocole hospitalier entre le moment où la décision est prise et le moment où l'acte d'accouchement où j'ai accouché de l'enfance en vie. Et c'est cette semaine-là, cet moment où j'ai dû demander l'interruption médicale de grossesse qui m'a causé le plus de culpabilité parce que l'enfant bougeait en moi. Et je me revois lui demander pardon la veille de sa naissance, la veille de mon accouchement, et je décris ce passage dans mon livre. Mmh. Je crois que c'est ça le moment le qui m'a fait sentir le plus de culpabilité, en fait. C'est quand il était vivant. Mmh.
À quoi vous vous êtes raccroché à cette période-là?
À rien du tout, en fait, parce que j'étais complètement vide, triste, désemparée. En plus, j'habitais à l'étranger, j'habitais au Kazakhstan, je me suis raccrochée à rien. Je crois que j'étais...
Je crois que vous avez fait le choix de retourner quand même travailler très vite. Vous dites que cela a fait partie de votre deuil. Est-ce que cette décision vous a aidé quand même? Parce que Gaëlle évoquait aussi le fait de se replonger aussi dans la vie. Est-ce que vous retournez dans le travail, ça a été quelque chose qui vous a aidé?
Ben, j'ai pas vraiment eu le choix, en fait, parce que j'habitais à l'étranger et les conditions de congé maternité étaient différentes là-bas. Mes enfants étaient repartis dans ce pays où j'habitais, donc c'était au Kazakhstan, en Asie centrale.
Oui.
Donc j'ai pas voulu être séparée de ma famille, j'ai accouché en France et très peu de temps après je suis retournée là-bas, donc plutôt que de rester chez moi, il faisait froid, il y avait de la neige, c'était terrible, je me sentais isolée, j'ai préféré retourner au bureau, peut-être être plus entourée et avoir quelque chose à faire, en fait.
Mmh. Vous dites que dès le début, cela vous énervait qu'on vous en parle, on vous en parle tout le temps, c'est-à-dire
Non, on me parlait du temps, en fait. On me
disait, du temps, oui.
Excusez-moi, on me parlait du temps, en fait. On me disait, le temps va faire
son œuvre.
Va faire son œuvre. Ouais. Et en fait, je venais de perdre un enfant et je ne comprenais pas comment le temps peut m'aider à oublier cet enfant-là, puisque pour moi, il existait. Donc c'est vrai qu'on parle du temps était quelque chose d'assez décalé par rapport à ce que je venais de vivre.
Oui, et c'est surtout sans doute des paroles à éviter lorsque une mère comme vous vient de vivre un tel événement. Je pense que la notion de temps disparaît totalement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vous avez sans doute l'impression d'être totalement hors du temps à ce moment-là.
Oui, la notion de temps, et on se demande comment le temps peut avoir un effet sur finalement la douleur qu'on ressent. Ça n'a rien à voir, en fait. Cette douleur, elle est omniprésente et l'enfant n'est pas là. Et on se demande comment le temps va nous faire oublier cet enfant. D'ailleurs, je ne l'ai pas oublié, même 6 ans après, il est toujours là, en fait. Mmh.
Merci beaucoup, Aude, pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que votre ouvrage 29 semaines et des poussières d'étoiles est disponible aux éditions Cherche Midi. Dans quelques instants, nous serons avec Clotilde. Elle a dû mettre un terme à sa grossesse et elle ressent très nettement le tabou autour du deuil périnatal. Prénatal.
Et comme Clotilde que nous allons écouter, vous avez dû mettre un terme à votre grossesse. Vous avez perdu un enfant avant qu'il naisse. Après la naissance, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21 sur Europe 1. On parle du deuil périnatal. La perte de leur bébé représente un véritable choc pour les parents. Vous avez réussi à vous reconstruire. On vous écoute au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Clotilde sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Clotilde, oui. Soyez la bienvenue.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Clotilde?
Alors, moi, j'ai 41 ans et je vous appelle de Marseille.
D'accord. Alors, vous avez vécu, comme Aude, une interruption médicale de grossesse à 34 semaines, car votre bébé était malade. C'était il y a 4 ans maintenant. Vous avez remarqué que très vite, c'était comme si votre bébé n'avait pas existé. Expliquez-moi comment vous avez ressenti cela.
C'est terrible. C'est très particulier parce que vous revenez chez vous sans bébé, vous avez été enceinte, on vous avait enceinte, donc il y avait une réalité sur un projet d'enfant, un projet de naissance. Et quand vous rentrez, vous n'avez pas le bébé et personne ne l'a vu. Donc les gens comprennent que vous soyez triste, ça, il n'y a pas de problème, parce que bon, y a quand même une douleur. Mais par contre, il n'y a pas du tout d'existence sociale de cet enfant. Personne ne l'a vu ni entendu. Nous sommes les seuls à l'avoir entreaperçu, on va dire. Hein.
Ouais. Et puis, on vous a vu enceinte aussi. Donc, je suppose que ça aussi, ce regard qui vous accompagne lors de ces 34 semaines, il est aussi important. On savait que vous étiez enceinte.
Oui. Voilà, aux yeux de tout le monde, à l'école, au travail, on me voit enceinte. Et puis quand je rentre, je ne suis plus enceinte. On me demande des nouvelles du bébé, pour ceux qui ne le savent pas. Mmh. Et puis la réponse, c'était, on ne sait pas trop quoi dire en fait. Mmh. Ça s'est mal passé, je ne l'ai pas et il est mort en fait.
Vous avez traversé une grosse dépression après tout cela. Comment votre couple a-t-il traversé ce deuil ? Est-ce que vous avez ce couple a résisté à ce deuil ?
Oui, le couple, il endure quand même pas mal d'épreuves avec cette décision d'interrompre déjà. Mmh. Et ensuite, le vide, parce qu'il y a un énorme vide. Alors, le papa, il s'en remet un peu plus vite parce qu'il travaille, il ne s'arrête pas, il n'est pas en congé maternité.
Oui.
La maman, par contre, moi, j'étais en congé maternité sans bébé. Et tout ce temps-là, tout ce vide-là, je l'ai vécu à 100%. Et puis, forcément, ça tombe dans la tête. On se rend extrêmement coupable aussi de la décision qu'on a prise. Mmh. Et puis, on se sent mauvaise. Moi, je disais, je ne sais plus qui, que je me suis prise pour Dieu. J'ai donné la vie, mais j'ai donné la mort, parce que c'était une décision. Mmh. Et ensuite, cette décision, on a beaucoup de mal à l'assumer. Mmh. Et après, on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce que vraiment il était si malade que ça, etc. Et après, tout ce vide-là, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans le ventre et vous l'avez partout.
Donc,
et puis, je me suis coupée vraiment de beaucoup de monde. On m'appelait, je ne voulais jamais faire ni sortie, ni cinéma, ni rien du tout.
Mm-hmm. Gaëlle, dans le début de cette émission, expliquait combien c'était une épreuve qui ne devait arriver à aucun parent. C'est la nature qui s'inverse à ce moment-là. Lorsqu'on est confronté à la mort d'un enfant, il faut se raccrocher à la vie. Vous aviez un besoin viscéral à ce moment-là de retomber enceinte. Vous l'avez ressenti très fort, ce besoin ?
Très, très fort. Alors, je trouvais ça très mal placé quand les médecins et les généticiens, lorsque j'étais encore enceinte, le jour de l'interruption, m'ont dit « Mais vous allez très vite retomber enceinte, Madame Molière, il faut absolument que vous fassiez un enfant.
Ouais. »
Je trouvais ça horrible. Et en fait, quand j'ai donc accouché de ce petit Johan, qui était déjà mort, quand on l'accouche, il est déjà mort. Après, dès le retour de couche, alors c'était terrible, j'avais tout le temps envie de faire l'amour. vraiment un truc de dingue. Il fallait absolument que je refasse un enfant. Je crois que la vie reprend le dessus très vite. On a une espèce d'instinct animal, c'était vraiment ça. Et il fallait que je retombe enceinte.
C'était une pulsion de vie, ça
une pulsion.
Ouais.
Oui, une pulsion de vie, exactement. De toute façon, je ne me l'explique pas autrement. Et en fait, du coup, je suis retombée enceinte 6 mois après.
C'est ce qui vous a aidé à avancer et à construire à nouveau, de retomber enceinte ?
Oui, pas que ça.
Non,
parce que heureusement,
ça a beaucoup aidé.
Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit que j'étais quand même capable de retomber enceinte. Bon, après, s'en suit bien sûr des angoisses. Je vous épargne les détails. Mais ce qui m'a aussi permis quand même d'être sereine, c'est d'avoir franchi le pas d'une thérapie. Donc, j'étais enceinte en août, j'ai franchi le pas en juillet. Et ma thérapeute m'a accompagnée pratiquement toute ma grossesse. Et là, j'ai vraiment pu, on va dire, tourner la page de ce décès et vivre mon deuil, on va dire, à peu près normalement. Voilà.
D'accord. Et comment s'appelle la nouvelle petite venue ?
Oui, la petite fille s'appelle Stella.
D'accord.
Elle fait la sieste actuellement. Là. C'est pour ça que je ne parle pas très fort. Elle a 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un mois, elle a 3 ans.
Eh bien, vous lui ferez un gros baiser de la part de toute l'équipe d'Europe 1 aujourd'hui. Et mille merci, Clotilde, pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Un baiser encore au bébé qui dort là, tranquillement. Pour conclure cette émission, nous accueillerons dans quelques instants Françoise. Il y a 12 ans, son petit-fils est mort avant de naître et elle a accompagné sa fille dans son deuil. Et on va voir que cela dure encore aujourd'hui.
Et Caroline témoigne sur Facebook, j'ai perdu mon deuxième fils à la naissance. Le 10 septembre 2012, je me demandais comment survit-on à la mort de son enfant. J'y suis arrivée, même si je ne suis plus la même. J'ai eu mon troisième petit qui m'a apporté plein de bonheur comme son frère aîné. Et Isabelle, au 39-21, ça fait 13 ans que j'ai accouché d'une fille mort-née. Il faut accompagner la fratrie car c'est difficile de s'occuper du reste de la famille. Il ne faut pas entretenir quelque chose de morbide. Cependant, nous dit Isabelle, pendant trop longtemps, la vie continue à avancer.
Europe 1.
Nous parlons du deuil périnatal et on vous écoute au 39-21. Quelle vie après le deuil périnatal ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Françoise. Bonjour Françoise, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Françoise ?
Eh bien écoutez, j'ai 68 ans et je vous appelle des Yvelines.
D'accord, alors vous Françoise, dites-moi quoi ?
Non, parce que j'ai été très émue des témoignages de Aude oui. et de Clotilde, vraiment très, très émouvant. Mmh.
Alors,
ça
Françoise,
des souvenirs.
Oui,
ça,
oui, justement, on va parler de ces souvenirs, puisqu'il y a 12 ans, votre fille a dû prendre une décision douloureuse, faire une interruption médicale de grossesse. Comment l'avez-vous accompagnée, votre fille, dès le départ, dans cette épreuve?
Nous, c'est vrai qu'on a vécu cette annonce vraiment comme un tsunami qui arrivait dans notre famille.
Oui.
On se demandait pourquoi ça nous arrivait. Et donc, tout de suite, ça a été très dur. Et on a, après qu'on a eu le choc de cette affreuse nouvelle, on a essayé vraiment d'être près d'eux, près de nos enfants, pour leur apporter vraiment une présence, un soutien permanent, parce que pour eux, c'était vraiment pas simple du tout. C'était irréel même, de toute façon, c'était irréel, c'était leur premier enfant. Et donc, on a été vraiment tout le temps près d'eux, tout le temps. Le temps qu'ils ont voulu, hein, au moment où ils ont voulu être
vous
seuls,
aviez,
on les a laissés seuls.
Vous aviez l'impression de devoir être forte aussi pour elles?
Ah oui,
ouais.
Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Ce n'était même pas qu'une impression. On était vraiment... réellement, on était là, on subissait leur douleur, si vous voulez, mais on est forcé de ne pas leur laisser paraître, parce que pour ne pas en rajouter encore un peu plus, si vous voulez, à leur douleur.
Oui.
Donc, vraiment, on était fort, hein, par rapport à effectivement, leur... On avait un soutien permanent, absolument.
Alors, vous dites, Françoise, avec vos mots, à vous, que vous avez fait l'erreur au départ de dire à votre fille de jeter tout ce qui concernait son fils. Pourquoi considérez-vous que c'était une erreur?
Ben, c'était une erreur parce que, si vous voulez, moi j'avais vécu ça par le passé, souvent dans les familles, quand ça arrivait, ce genre d'événement, malheureusement, tout de suite il fallait rayer l'enfant, il fallait tout ranger, enlever le berceau, enlever tout. Et en fin de compte, ma fille tout de suite m'a remise, m'a cadrée tout de suite, elle m'a dit non, Théo est là, et même s'il existe, il est là, il faut absolument en parler et tout. Et donc là, tout de suite, j'ai tout de suite compris qu'il fallait faire exister Théo, absolument, pour pouvoir qu'ils continuent eux-mêmes d'avancer. Et donc, effectivement, parce que... Mais dans le temps, c'était tabou, il y a plusieurs années. Il fallait, fallait pas du tout parler d'enfants morts ou d'enfants du tout. Et donc, je repliquais un petit peu ça, mais tout de suite, monsieur, je me suis dit non, pas du tout. Ça a changé et ça a évolué, justement. Il faut faire évoluer.
Vous ne saviez pas comment réagir, hein, à l'époque. Parfois, vous aviez peur d'être maladroite.
Oui, tout à fait. Effectivement, on était, même mon mari, on avait peur d'être maladroit et on ne sait pas trop comment faire, si vous voulez, par
mais
rapport à la décision qu'ils ont prise.
C'est
très dur. C'est très dur parce que, justement, vis-à-vis d'eux, il faut toujours faire, même par rapport à leur décision et tout, on les a vraiment accompagnés jusqu'au bout. Et quand Théo est arrivé également, c'est pareil, on essayait quand même d'être le plus vite possible quand même.
D'ailleurs, alors, justement, oui. Françoise, je vous écoute et je me dis que vous avez eu du mal à parler de votre deuil à vous à ce moment-là. Est-ce que c'était considéré, là, pour le coup, d'être maladroite que de parler de votre peine à vous? Est-ce que vous évitiez de parler de votre deuil à vous, de votre douleur à vous?
Absolument, absolument. Plus d'une fois, j'ai pleuré quand je sortis de chez ma fille ou qu'elle me parlait. Et donc, devant elle, j'essayais vraiment d'être forte. Mais effectivement, je m'écroulais moi aussi. Je me suis écroulée aussi. Mais par contre, elle ne l'a pas su parce que c'était trop dur, hein, pour elle. C'est tellement inimaginable. Et donc, effectivement, j'étais quand même assez... vis-à-vis d'elle, je ne faisais pas voir du tout.
12 ans après, vous vous rendez encore sur la tombe de votre petit-fils. C'est important pour vous que cet enfant soit toujours là, dans vos esprits. Cette démarche, elle symbolise quoi pour vous?
Ben, écoutez, pour moi, c'est hyper important d'aller sur sa tombe. Et si vous voulez, ma fille, elle a fait un livre par rapport, justement, elle a voulu raconter son histoire. Moi, je ne souhaitais pas trop parce que j'avais peur qu'elle revive tout ça.
Oui.
Et donc, si vous voulez, symboliquement, pour nous, les petites plumes sont très importantes. Donc, souvent, quand je vais voir Théo, il y a des petites plumes qui tombent sur mon chemin. On ne sait pas trop pourquoi. Ma fille aussi. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai besoin d'y aller souvent. Là, ça va être bientôt l'anniversaire de ses 12 ans, là, le 11 avril, ça va être 12 ans qu'il est parti. Et pour moi, c'est très, très important d'y aller, et même pas forcément la date anniversaire, tout au long de l'année, comme je n'habite pas très loin, je vais lui rendre visite, je vais le voir.
Et c'est souvent des plumes, des papillons, des libellules qui accompagnent ses parents, souvent. On revoit la vie à travers ce type de signe. Et on va finir sur justement cette image-là, parce que tous ces parents, en fait, qui ont eu le courage de témoigner aujourd'hui, témoignent aussi d'une force qui s'appelle la vie, parce qu'on voit qu'après, la vie, elle est revenue à travers une nouvelle grossesse, à travers ces témoignages qui étaient lumineux cet après-midi. Merci Françoise.
C'est très beau, j'ai bien aimé.
Merci pour votre appel, en tout cas pour votre témoignage. Merci aussi à Gaëlle, merci à Aude et à Clotilde de nous avoir partagé leur histoire. Merci aussi à Marie-Josée Soubieux, dont le livre Le berceau vide est disponible aux éditions RS. Donc merci à vous, Marie-Josée Soubieux, pour vos éclairages. On sent à travers vos témoignages sur le deuil périnatal que cet enfant qui n'est plus là ne disparaît jamais vraiment, qu'il fait partie d'une histoire familiale. La vie, après, c'est aussi une histoire de résilience. Hein. Elle passe pour certains par un autre enfant, pour d'autres par l'écriture, par une thérapie. Il est important aussi que les proches ne fassent pas comme si cet enfant n'avait jamais existé. Des associations aident au quotidien à accompagner les familles. Je pense notamment à Agapa ou à Pied par Terre, Cœur en l'air. Pied par Terre, Cœur en l'air, hein, c'est une association. N'hésitez pas à vous tourner vers elle si vous traversez cette épreuve.
Et n'hésitez pas à continuer de témoigner, d'échanger entre vous. Vous avez été très nombreux, très nombreuses à nous écrire. On n'a hélas pas pu tout lire. Jess, Sandrine, Alex, Sylvia, Raphaël, Marine, Dylan, j'en passe, tous vos messages sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Continuez à échanger entre vous. Et puis bien sûr sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la méditation, une pratique qui a conquis des millions de Français. Mais est-elle à la portée de tous, cette méditation? Alors si vous la pratiquez, ou si vos enfants la pratiquent aussi, si la méditation fait partie de votre vie depuis longtemps, si vous avez essayé mais que cela n'a pas marché, ou si cela a marché d'ailleurs, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ombline, j'étais ravi de passer cette heure à vos côtés.